Barbara Sattre et Béatrice Lefiriding nous proposent cette conversation, donc en partenariat avec le séminaire de l'école de la France Freudienne. Donc nous vous remercions vraiment de ce moment que Barbara a voulu intituler « Rien que de l'aquarelle ». Voilà ce dont il va être question. Donc la conversation va être conduite par Hervé Castanet, qui a accepté notre invitation, qui est psychanalyste à Marseille. Et vous allez pouvoir entendre, il va donc converser avec deux artistes que je vous présente rapidement, trop rapidement certainement. Armelle de Sainte-Marie, artiste peintre qui vit et travaille à Marseille et à Lyon, qui a donc été étudiante à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Versailles, diplômée des arts appliqués Olivier de Serres à Paris. Et vous pouvez aller visiter son site qui vous présente œuvres, textes qui est très bien fait. Converserons autour de cette question rien que de l'aquarelle. Également un autre artiste, Didier Tisser, qui vit et travaille en Provence et en Bohême. Alors Didier nous présentera peut-être des images de ses mobiles, sculptures et également aquarelles. Voilà, donc je laisse Barbara vous présenter l'exposition que vous pouvez voir.
Merci. Bonsoir à tous, bienvenue à la galerie Béaba. Et merci d'être aussi nombreux. C'est toujours bien d'être victime de son succès. Et désolé pour ceux qui sont debout. On pourrait peut-être d'ailleurs essayer de tourner, de, si vous le voulez bien, histoire que tout le monde puisse se reposer les jambes pour ceux qui sont debout. C'est super. Que vous dire si, déjà peut-être quelques mots sur cette exposition, sur cette exposition-là, Ulrich Bellmann, une exposition autour de la couleur. C'est donc tout trouvé de faire ce temps autour de l'aquarelle qui est en lien avec, vous savez, Paris Idoli, qui est ce salon international du dessin qui a lieu au château de Servières ici à Marseille, et où nous avons une carte blanche et où nous avons voulu montrer de l'aquarelle, je vous dirai pourquoi, et notamment nous avions montré des aquarelles d'Ulrich Bellmann, qui est un pan très important de son travail, du travail de cet artiste qui est donc allemand, un artiste de Cologne, de l'inspiration de ce qu'on appelle le radical painting en Europe, une culture, quasiment une culture qui démarre dans les années 80, de la peinture dite de la présence de la couleur seule, d'avant la forme, et son aquarelle est un prolongement, voire je dirais même est au départ de ce type de cheminement. Alors je vais vous montrer, non c'est pas celle-ci, une de ces aquarelles, puisque en bonne historienne de l'art, je pense qu'il faut toujours partir des autres. Une aquarelle, je fais le porte-aquarelle, mais ça me va bien. Et donc une aquarelle qui est faite de ces enroulements caractéristiques que vous pouvez voir ici aussi, hein, et qui, je pense, est d'une radicalité encore plus grande, d'une certaine façon, que sa peinture, parce qu'elle est faite presque du seul développement de l'eau et des pigments mêlés, ou pas complètement, hein, c'est aussi ça l'aquarelle, dans une recherche perpétuelle, chez Ulrich Bellmann, c'est très important, hein, d'une libération complète de la couleur. Alors c'est un horizon, hein, c'est un objectif, est-ce possible? Ça c'est une question qu'on pourrait poser. Mais donc cette idée, pour revenir à cette notion d'aquarelle, pourquoi l'aquarelle en vérité? Pourquoi s'intéresser à l'aquarelle aujourd'hui? Sans doute, en tout cas en ce qui nous concerne, parce qu'elle est tout simplement pas suffisamment représentée. En tout cas dans les salons, hein, en particulier dans les foires, la couleur, je dirais, n'est pas particulièrement représentée. L'aquarelle, peut-être encore moins, et pourtant, elle peut jouir, elle jouit d'une véritable vitalité. Et c'est donc ce que nous voulions mettre en relief et puis aussi exposer là dans une discussion que vraiment je vous remercie de mettre en œuvre ce soir. Je laisse la parole à elle.
Juste un point, La discussion, la conversation va durer 3/4 d'heure, c'est-à-dire qu'elle terminera à 19h45 pile. Voilà, je passe le micro à Hervé Castel.
Bon, mais je vois pas pourquoi vous voulez l'interrompre pile. Pile. Non, je vais vous expliquer. C'est moi qui dois partir à 1h pile, mais pas vous. Donc vous me l'adressez, on me dit pile, vous n'allez pas dire à une assistante, pile, vous êtes dehors, pile, c'est fini. Je crois que quelqu'un vous dira, et si on faisait la version face, qu'est-ce que ça donne? Donc, est-ce que je dois être un peu plus bas à la crier pour la générale? Donc, vous m'avez présenté, il fallait bien dire quelque chose, vous auriez pu dire Hervé Castanet qui vit à Marseille, ça aurait été beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, selon les titres qu'on donne, vous voyez immédiatement les stéréotypes qui apparaissent. Et puis nous sommes au moins deux déjà à être d'accord de ne compter presque pour rien. On a vu ça tout à l'heure. D'être des petits monsieur gris. Donc ça, Barbara nous a dit que ça fera d'autant plus flamber la couleur des aquarelles. Et donc vous, au milieu, vous voyez, c'est la meilleure des positions. Donc l'idée, au fond, c'est que vous avez donné c'est vous, Barbara, qui avez donné ce titre restrictif, rien que l'aquarelle. Moi, je voulais commencer par vous demander, vous êtes d'accord de partir de ce titre ou vous le trouvez pas tout à fait comme vous auriez aimé qu'il soit?
C'est un titre qui laisse supposer que rien n'est tout, évidemment. Enfin, pour nous, dans la pratique, je ne sais pas pour toi, mais qui laisse supposer une entrée dans une transparence et quelque chose de fluide qui permet au contraire d'exprimer beaucoup de choses. Donc rien que de l'aquarelle, c'est presque rien que de l'eau. Après, voilà, il y a la couleur et il y a tout un monde.
Pour moi, le titre, c'est juste le cadre de l'entretien. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, il n'y a pas rien que l'aquarelle, il y a plein de choses autour, parce que l'aquarelle, elle est là, elle arrive nourrie de beaucoup de choses, de beaucoup d'expériences. Ce n'est pas le point de départ des choses, ni le point d'arrivée, d'ailleurs. Mais... Moi, ce qui m'intéresse là, de dire en premier lieu, c'est que l'aquarelle, c'est justement, rien que, c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est la forme du dénuement. C'est-à-dire que l'aquarelle, c'est presque rien, justement. Voilà.
Ah. Je n'ai pas bien saisi. Vous insistez sur l'aquarelle, c'est presque rien, mais dans quel sens?
D'abord, dans le sens du matériau. C'est un matériau extrêmement léger et ça permet justement de voyager léger et d'avoir presque les mains dans les poches. Et c'est en ça que c'est presque rien.
C'est un peu le matériau du voyageur. C'est une forme de simplicité aussi et de cadre. On associe, j'ai l'impression, peut-être tout le monde ici, l'aquarelle à une forme de calme par rapport à une pratique qui serait à l'huile ou des peintures telles que la gouache ou autre. L'aquarelle, c'est vrai que cette notion de transparence et dans l'histoire, ce côté presque délicat, quel que soit le sujet traité à l'aquarelle, qu'il soit flou ou précis. On a cette simplicité d'utilisation et de mise en œuvre. Dans mon histoire, dans ma pratique en tout cas, l'aquarelle est venue à un moment très pragmatique de lieu de travail et de simplicité à accorder à ce que je mettais en œuvre, justement parce que je n'avais pas la place et pas d'atelier à ce moment-là. Donc ça peut être effectivement transporté dans les poches parce que c'est tout petit et qu'on a besoin d'un verre d'eau, et voilà. Soit effectivement dans un appartement, dans une cuisine ou dans une chambre quand on n'a pas d'atelier. Donc ça, c'est vraiment des préoccupations de peintres, tout ce qu'il y a de plus terre à terre. Mais souvent, les peintres sont terre à terre. On a des préoccupations très pragmatiques. Donc l'aquarelle, c'est cette, a priori, cette légèreté-là de mise en œuvre. En tout cas, pour moi, j'y suis venue comme ça. Parce qu'en plus, dans mon imaginaire et dans ma façon de la percevoir, c'est vrai que j'avais toujours reculé un petit peu ce matériau-là comme étant quelque chose de peut-être soit trop délicat, soit trop bourgeois, soit les jolies aquarelles qu'on voit dans les salons, les fleurs, les choses sur le motif. Voilà, c'était quelque chose dans ma culture que je voyais beaucoup qui me semblait peu chargé de force. Et en fait, en la pratiquant de manière simple, on s'aperçoit qu'effectivement, dans cette légèreté-là, on peut voilà, dire beaucoup de choses. Je ne sais pas toi, comment tu le dis.
Oui, toujours dans le presque rien. Moi, je voudrais aussi parler de l'aspect économique des choses. Les artistes, ils n'ont pas de fric. Et l'aquarelle, c'est une manière de faire les choses avec rien, justement. Et moi, ça, je trouve que c'est intéressant, parce que si on demande aussi pourquoi l'aquarelle aujourd'hui, eh ben ça, c'est une forme de réponse. C'est une forme de réponse, c'est-à-dire que les contraintes extérieures sont très puissantes, et donc on recherche les ressources intérieures qui nous permettent de continuer à faire des choses, à mener ce combat d'être au présent tout le temps et de produire les choses, et que donc cette forme-là, économiquement, elle est extrêmement intéressante. Et là, on est loin, là tout d'un coup, on est vachement loin de l'univers bourgeois, quoi.
Vous voulez peut-être nous dire pourquoi vous aviez choisi ce queue restrictif ?
Oui. Alors, ce queue restrictif, non, au départ, c'était de partir de cette expression, rien que de l'eau. C'était justement cette. Deux dimensions m'intéressaient là-dedans. C'était. La première, c'est qu'en effet, je pense qu'une des raisons pour laquelle l'aquarelle n'est pas présente beaucoup dans les endroits où on représente du dessin, enfin où on montre du dessin, c'est pour une part que l'aquarelle a mauvaise presse, parce qu'en effet, pour corroborer ce que tu disais, je crois que c'est une peinture c'est une peinture de salon, une peinture du jour. Enfin, c'est un dessin du dimanche. Voilà, que l'on attribue très facilement, en tout cas que l'on intègre à une catégorie de l'art d'amateur, en fait. Donc voilà pourquoi rien que de l'aquarelle, et également pour cette idée, c'est rien que de l'eau, cette expression-là, hein, commune, c'est rien que de l'eau, parce que l'aquarelle, en effet, a cette évanescence-là, à cette simplicité-là, cette fragilité aussi, qui est de n'être que de l'eau, et pourtant ce presque rien, justement, c'est le retour au pigment, presque pur, parce qu'une fois que l'eau s'évapore, on ne retrouve que la couleur, le grain et ses nuances. C'est aussi la dissolution, comme ça, de la couleur, c'est une infinité de nuances qui est fantastique, qui dit quelque chose, me semble-t-il, aussi de notre présent, d'une part par cette vitalité que ça apporte, et aussi parce que je crois que c'est pas anodin, mine de rien, qu'on montre moins de couleurs aujourd'hui. Ça dépasse le simple champ de l'aquarelle, mais voilà pourquoi, rien que l'aquarelle, c'était l'idée.
Mais vous aviez organisé une exposition qui aurait pu avoir pour titre rien que de la couleur ici.
Oui, oui. Ben, ceux qui connaissent un petit peu la galerie savent qu'ici, on défend la couleur. On défend les coloristes, pas contre les dessinateurs, hein, on n'est plus dans ce genre d'académisme et de confrontation. Mais oui, force est de constater que la couleur a mauvaise presse, me semble-t-il. Hein. Vous me contredisez si vous semble que c'est le contraire, mais je crois pas. Et je crois que c'est aussi lié à nos temps, hein, nos temps qui sont très déceptifs, évidemment. Mais je crois que le règne du gris ou de l'absence de couleur est en soi une forme de renoncement auquel en fait les artistes n'adhèrent pas, parce que je crois qu'il existe énormément. Enfin, qui fait la peinture, et il y a des peintres dans la salle, qui fait la peinture utilise de la couleur en fait. Même les peintures les plus sombres qui soient, c'est de la couleur. Mais il y a, me semble-t-il, parfois je ressens une forme de négation de la couleur comme posture. Je trouve ça inquiétant d'une part et faux d'autre part, parce que je crois que les peintres, parce qu'ils sont peintres, de toute façon utilisent de la couleur. Donc quand on défend les peintres, on défend la couleur. Et tous ces prolongements.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la formule de Barbara, quand on est peintre, on défend la couleur ?
Défendre, c'est peut-être pas le terme exact, mais je pense qu'on est habité déjà par la couleur, quelle qu'elle soit, et la matière. Pour moi, c'est assez indissociable. Mais c'est d'ailleurs difficile à définir, ça dépend vraiment du matériau utilisé. Ce qu'il y a avec l'aquarelle, ce qui se passe... c'est qu'il y a une fluidité qui habite déjà le papier, quelle que soit la teinte. Et en plus, si on travaille les pigments de couleur, ça s'habille en plus d'histoires supplémentaires. voilà. Enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique, la couleur a été présente davantage depuis une dizaine d'années qu'au départ dans mon travail. Et je pense que c'est lié à des périodes de vie, comment on avance, comment on reçoit les expériences picturales, une expérience humaine tout simplement. Donc après, en tant que peintre, moi je ne peux parler que pour moi, les autres je peux observer, mais pour moi ça a été plus une question vitale, physique, de période de vie, oui, de croissance.
J'ai pas bien compris le terme croissance.
De développement dans une expérience de peintre. C'est-à-dire de commencer par quelque chose de plus graphique. J'ai travaillé pendant une longue période les bruns, les noirs, les gris. Donc j'étais vraiment dans quelque chose de très sobre au niveau de la couleur. Et voilà, il y a eu un moment, un besoin réellement physique de me nourrir de davantage de couleurs. Pour pouvoir développer un travail.
Il y a une dizaine d'années, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à peu près.
Vous vous rappelez, par rapport à votre travail, le moment où il y avait l'aquarelle, l'eau, les pigments, les couleurs ?
Alors, les couleurs, ça commence avec l'huile, pas avec l'aquarelle.
Voilà.
Avec l'huile. Et donc, ça s'est continué, enfin, ça s'est poursuivi avec l'aquarelle ensuite. Et c'était avec l'huile d'abord. Avec les huiles, avec les essences. Un peu comme, oui, une projection peut-être d'un corps. C'était vraiment une projection très, très physique. Un besoin assez vital, en fait.
Voilà. Un besoin assez vital. Ça prenait quelle forme pour vous ?
Ah ben, ça prenait la forme des pigments et de mettre les mains dedans et les doigts dans la couleur. Une forme d'appétit.
Et vous, Didier ?
Moi, pour faire un petit jeu de mots, je dirais toujours qu'avec la couleur, j'ai toujours un blanc. Il y a toujours quelque chose de vide avant la couleur. Et c'est dans ce blanc, justement, que les choses commencent à bouger, à intervenir. Après... La couleur, c'est aussi quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps. Les peintres, ils tombent pas du ciel comme ça, ils visitent les musées, ils regardent ce que font les collègues autour, ils se posent des questions de comment ils pourraient agencer les choses d'une manière différente pour justement provoquer à soi-même la surprise. Moi, je vois les choses comme ça, plutôt. J'aime bien les accidents. J'aime bien quand tout le tableau se casse la figure, qu'il n'y a plus rien qui tient, et qu'on est obligé de tout reconstruire. Et la couleur, pour moi, c'est un peu comme... c'est quelque chose de solide dans l'espace. C'est quelque chose avec lequel on construit, on bâtit, un peu comme un maçon peut faire avec une truelle, un mur. souvent, enfin la peinture pour moi c'est souvent un mur, quoi. Et ce mur on le construit avec les éléments qu'on a. Alors c'est ça la grande différence avec l'aquarelle, c'est que l'aquarelle elle dit pas tout de suite sa couleur. C'est-à-dire on pose la couleur, mais on sait très bien que quand l'eau va s'en aller, on va avoir quelque chose de complètement différent. Donc on met les pieds là-dedans. C'est ce que je disais à Armel tout à l'heure, encore pour faire un jeu de mots, je disais que moi dans l'aquarelle j'ai pas pied. Voilà, c'est comme ça.
Mais quand vous dites la peinture c'est un mur, vous incluez l'aquarelle ou justement
non.
C'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est pas tout à fait pareil.
C'est ça que vous voulez dire.
Ouais. Oui, parce que dans l'aquarelle, il y a cette fluidité. Un mur, ça peut être fluide. Hein. Enfin, ça peut être fluide aussi. On peut imaginer un mur comme dans les séries de science-fiction.
On s'y cogne aussi.
On s'y cogne, oui. Mais on peut aussi imaginer un mur comme dans en science-fiction, où on met le doigt et puis il y a toute la main qui rentre dedans. Et voilà. On peut imaginer aussi un mur comme ça.
Oui, ça peut être un combat pour traverser le mur, pour grimper par-dessus, passer de l'autre côté. Donc oui, l'aquarelle, c'est plus fluide, ça coule autrement. Et c'est vrai que ça se passe de manière, on parlait de la légèreté tout à l'heure, ça se passe peut-être de façon moins chargée, c'est moins peut-être un combat, c'est plus une surprise peut-être, bien qu'il y ait des surprises en peinture, bien sûr. Mais c'est vrai que d'une manière générale, l'aquarelle... sur le papier, ça, voilà, c'est plus léger.
À propos de la relation entre la peinture, donc la peinture à l'huile, hein, qui peut être justement considérée comme la grande peinture, comme disait Barbara tout à l'heure, et l'aquarelle comme une pratique amateur, etc. Et moi, je pensais à une phrase de Cézanne qui disait « En peinture, je vous dois la vérité ». Alors là, tout de suite, on est face à un truc... Putain, la vérité en peinture, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour dire la vérité? Est-ce que j'ai envie de dire la vérité, d'abord? Et puis, après, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la vérité dont il parle, là, Cézanne? Et comment je peux opposer l'aquarelle, ou pas l'opposer, forcément, mais la mettre à côté? Et je me suis dit que dans cette histoire de vérité, il y avait quelque chose de très masculin. Il y avait quelque chose qui était très en tension, comme ça, qui était très la puissance, je veux dire la vérité, vous allez voir, vous allez savoir, et tout ça. En même temps, bon, Cézanne, il ne dit pas que ça, hein, il dit beaucoup d'autres choses, en particulier quand il parle de la petite sensation, là, on est tout à fait ailleurs. Mais je me suis dit que, justement, dans l'aquarelle, il y avait quelque chose de féminin aussi. Et que, voilà, rechercher cette féminité aussi, c'est peut-être tout à fait intéressant. Dans la mesure où justement l'aquarelle c'est peut-être quelque chose d'un peu transgenre justement. Comment on peut se mouvoir dans cet interstice comme ça entre le lâcher prise et l'attention.
Oui, puis travailler avec le liquide, et l'écoulement, les épanchements sur le phénomène de la tache aussi, et de mouiller le papier avant ou juste le pinceau. Donc effectivement, cette tâche et ce qui vient sera comme une matrice. Donc effectivement, ce côté, on pourrait dire féminin, voilà, matrice, révélateur. Donc c'est vrai que c'est peut-être bien ce côté à la fois plus immédiat et en même temps de surprise, comme tu parlais tout à l'heure, mais relativement immédiat quand même. Plus que peut-être voilà, avec la peinture où voilà, on travaille des fonds, des strates, quelque chose où il y aurait a priori plus d'enjeux. Parce que effectivement travailler à l'huile, on se dit voilà, il y a l'enjeu. L'aquarelle, de poser un voile dans lequel peut-être on va avoir une vision, quelque chose qui va apparaître. Il y a le jeu. Plus que l'enjeu, en fait, enfin, pour moi, en tout cas.
Non, quand vous avez cité Cézanne, il m'est revenu pourquoi j'ai aimé, j'aime toujours Cézanne plus que tout. Et je l'ai vérifié encore, puisque j'ai eu un bonheur cet été, c'était en juillet,
C'était une émission qui a duré 10 heures ou 12 heures sur France Culture, où je suis intervenu sur Cézanne, justement. Et j'ai eu ce bonheur, c'est qu'avec les deux journalistes de France Culture, on est allé au musée Granet. Et la conservatrice nous a dit, bon, les Cézanne sont là. Elle a allumé, elle a dit, bon, maintenant j'ai du travail. Et elle nous a laissés seuls avec les Cézanne. Donc, bon, je le dis dans le... parce qu'on peut les toucher. Et au fond, la vérité, je tire un fil à partir de ce que vous avez dit, c'est que c'est, me semble-t-il, non pas « je vais dire la vérité », mais « quelle est la vérité de la peinture ?» Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une question qui résonne avec les pouvoirs virils du logos. Quand on touche la vérité, et qu'on se dit, qu'on la conjugue au singulier, il y a cette dimension. Elle est, quelle est la vérité de la peinture? C'est ce qui est quand même une question dont on ne se débarrasse pas aussi facilement. C'est pas est-ce que je dis la vérité quand je peins ou est-ce que je suis un peintre de la vérité? C'est quelle est la vérité de la peinture? C'est-à-dire quelle est sa spécificité propre? Et ça, c'est une question radicale qui je crois... travaille tout peintre qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Il y a des peintres qui choisissent l'inculture volontaire, c'est pas qu'il le soit, qui choisit l'inculture, qui se dit je ne veux pas savoir, je ne veux pas dire, qui force le trait de leur accent, enfin bon, une sorte de posture, mais c'est très secondaire tout ça. C'est que quand même, il y a cette question qui demeure là pour chacun. Quelle est la vérité? Et effectivement, il y répond comme vous dites. Mais si je tire le fil de Cézanne, c'est pas pour faire Wikipédia cultivée à la rue Sainte, c'est parce que l'enjeu même, il se retrouve chaque fois qu'on parle de la peinture. C'est-à-dire, quelle est la vérité? Et que la réponse, elle est plus complexe chez Cézanne, elle n'est pas unique. Puisque justement, il déconstruit la représentation là où peut-être ce qui se donnait à voir ou se présentait ne tenez pas compte de la vérité propre de la peinture. Donc c'est viril, mais les réponses ne sont pas aussi codées qu'on croit. Il me semble que vous pouvez tout à fait choisir en quelque sorte, au-delà des stéréotypes, au-delà des garçons et filles, au-delà de jupes et pantalons, évidemment c'est pas ça dont on parle, vous pouvez vous tirer du côté du féminin sans pour autant ne plus être cézannien, par exemple. Parce que c'est, la question est radicale, mais que les réponses, au fond, sont plutôt ouvertes. Plutôt ouvertes. Et puis, il y a de très belles aquarelles de Cézanne.
Tout à fait.
Quand on dit très belles, c'est une façon de dire, ça ne signifie pas grand-chose, mais en tout cas, qui presque s'oppose à ce qu'il avait découvert, des petites impressions, des petites marques, on parle par exemple Merleau-Ponty, les petits bruns, les petits gris, etc., qui se mettent comme ça, et l'aquarelle presque y objecte, et pourtant la problématique continue. Donc si on veut bien admettre que le maître, puisqu'après lui ce fut différent, si on veut bien donner cette place à Cézanne, comme on a pu donner une place à Piero della Francesca avant et après, enfin, c'est des grandes séparations au fond. Elles valent ce qu'elles valent, mais enfin, elles permettent de s'orienter par rapport au logos, par rapport à l'histoire de la peinture, par exemple. C'est quand même, ça pose une question au fond, je vais vous la poser. Est-ce que malgré tout, vous seriez encore cézannien avec l'aquarelle, vous? Enfin, vous deux, hein, c'est un groupe collectif.
Je ne sais pas. Ah ben oui, de toute façon, oui. Moi, quand j'étais étudiant, sur le fronton de l'école, il y avait quelqu'un qui avait écrit la citation de, je crois que c'était Matisse, ou je ne sais plus si c'était Matisse ou Picasso, qui avait dit « Cézanne est notre maître à tous ». Donc on reconnaît bien la césure cézannienne, et elle est intéressante. Voilà, moi je voulais rebondir sur cette posture pour qu'on puisse un peu plonger dans l'aquarelle. Mais c'est vrai que les aquarelles de Cézanne sont absolument sublimes. Hein. Et justement, quand on les regarde, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet, quoi. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un des pièges de l'aquarelle, c'est de faire des effets. C'est-à-dire, on fait un peu des ronds dans l'eau, quoi. Travailler qu'avec des effets, au bout d'un moment, ça lasse d'abord. Et puis c'est pas ça l'objectif, quoi. Quand on regarde les aquarelles cézanniennes, on a l'impression que le regard se faufile entre les touches, justement, qu'il ne s'arrête pas sur les touches, il rentre dans un labyrinthe spatial qui nous mène là où il veut qu'on aille, d'ailleurs, et qui est justement au-delà de la couleur, et puisque c'est la lumière. Et c'est ça qui nous impacte comme ça, aussi fort. Quand on voit ces petits paysages de la montagne Sainte-Victoire.
Et vous, Armelle, par rapport à...
Parce que l'aquarelle, c'est la lumière aussi. Et, oui. Et c'est le blanc du papier. Donc le support est très très présent. On ne le recouvre pas, en fait, on le fait exister aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui vient de l'arrière du papier qui doit vraiment exister. Donc voilà.
Non, mais ça me plaisait de tirer le fil de Cézanne parce que c'est toujours passionnant quand les peintres ou les artistes parlent d'autres artistes, où il n'y a pas la rivalité, il y a bien la distance du temps et de l'histoire, et c'est passionnant. Comment ils peuvent commenter, comment ils peuvent jouer le regard. Et je me rappelle très bien les aquarelles, je n'en ai pas vu que au musée... mais ailleurs, dont on sait qu'elle coûte des fortunes absolues. Et quand vous êtes devant, il y a quand même la phrase que vous aviez donnée, ce n'est que ça alors, parce que c'est peu provocant, c'est extrêmement sobre, et c'est vraiment un enjeu de peinture. Donc ce qui me paraît intéressant, vous avez cité Cézanne, dont je l'ai pris au vol, c'est qu'au fond, on peut retrouver des enjeux importants de la peinture, ou même de la vérité en peinture, ou la vérité de la peinture, titre d'un très beau livre de Derrida, c'est que justement, l'aquarelle n'y objecte pas malgré toutes les caractéristiques que vous en avez données. Donc ça fait partie intégrante, y compris pour Cézanne, y compris pour le patron. Alors c'est vrai que ça pose une question, pourquoi ensuite c'est aussi pas dévalorisé, mais mis un peu de côté. Mais je vous en prie, vous avez plein d'idées là-dessus.
Moi je voulais juste, il me semble que ce que Didier voulait énoncer aussi, qui concerne évidemment Cézanne, qui concerne tous les grands aquarellistes depuis même... ceux qui se sont colletés à ce travail qui consistait à faire de la cartographie, par exemple, l'aquarelle a été fabuleuse dans ce domaine aussi. Donc même dans ces domaines qu'on pourrait dire finalement de l'ordre de la nomenclature, il y a quelque chose qui correspond à une forme de non-maîtrise. L'aquarelle, ça, elle contredit un petit peu. Parce que mine de rien, l'aquarelle, elle l'intègre en tout cas dans le système des beaux-arts et l'histoire de l'art, hein, la catégorie du dessin, elle est encore dans la catégorie du dessin. Et le dessin, c'est la maîtrise. Le dessin, c'est le contrôle. Au moins depuis que Léonard de Vinci dit que le dessin, c'est l'idée. Donc le dessin, c'est l'idée. L'aquarelle, elle part de tout le contraire. En fait, elle contredit ça. L'aquarelle, elle part toujours d'une tâche. D'ailleurs, j'ai repensé il n'y a pas longtemps à cette histoire du test de Rorschach, c'est ça, qui, avec ses 10 planches, s'il y a des psys ici, ils verront de quoi je parle, mais le test de Rorschach, c'est un test qu'on ne fait plus maintenant, hein, qui est complètement désuet, mais je crois, non, on ne l'utilise plus, mais qui part du... Donc ce sont des tâches qui théoriquement, hein, doivent faire marcher l'imagination de chacun, et de cette imagination qui partirait d'une non-forme, on aboutit à une forme, donc complètement imaginaire, complètement inventée en fait, ou en tout cas personnelle. Et donc de ces... Enfin, je suis sûre que vous en avez vu tous des images, quelque part. Et donc, dans ces 10 plaques, ça part du noir, ça part de l'encre, et ça se termine vers la couleur. Donc, en fait, ça part de l'encre noire vers l'aquarelle. Je trouve ça très parlant, en fait. Et parlant, pourquoi ? Parce que l'aquarelle, c'est le médium de l'imagination. Libre, enfin, en tout cas, qui cherche à l'être. Et le fait de ne pas être dans cette espèce d'autoritarisme de la forme, d'autorité supposée de la forme, donc de partir de la tâche, c'est aussi une forme d'humilité, de départ d'humilité de l'artiste qui justement se dit, bon, qui met sa pierre à l'édifice, mais que voilà, le parcours est sans fin en fait.
Non, j'ai fini par un peu entrevoir pourquoi vous aviez donné ce titre. On est à Marseille, donc on ne fonctionne pas comme ça. Mais on serait dans une université américaine, immédiatement, on intégrerait ce que vous avez dit, et donc l'aquarelle, dans le cadre des études féministes. Immédiatement. C'est-à-dire tous les moyens de contrer les formes patriarcales de la représentation et de la création appartiennent aux études féministes, qui sont des départements entiers, puisqu'aux États-Unis, par exemple, pour la littérature ou pour l'histoire de l'art, on ne prend pas la périodicité classique, mais par façon d'approcher. Bien entendu, si c'était approprié par les études féministes, vous auriez le département d'études gays et queer qui se demanderait s'il n'y a pas une dimension, justement, de ce type qui permettrait... Il y a quand même des appropriations. Je comprends mieux pourquoi, vous, une femme, etc., Vous voulez parler de l'aquarelle, qu'au fond, ça, c'est un lieu de la non-maîtrise par rapport au dessin, par rapport à l'idée, par rapport à la tâche. Alors, le Rorschach, je ne connais pas, je suis un psychologue, mais effectivement, c'est plutôt pousser la dimension pareidolie.
Bien sûr, oui, oui.
C'est ça.
C'était,
vous voyez, c'était alors, c'est, peu, si, oui. Si vous faites ce qu'on ne fait pas par idolite, mais ce que je vois, c'est le sexe de ma mère, alors là, vous avez sûrement l'interprétation qui doit flamber. Bon. C'est comme ça, j'imagine, ces disciplines que je ne connais pas. Mais il y a cette dimension, au fond. Donc vous en faites... Je force le trait, je vous pousse un peu... vous avez une dimension presque politique de l'aquarelle dans le champ de l'art, la primauté de, au fond, de la pensée, de la peinture, du mur, des hommes, de la fixité, et vous dites le liquide, le coloré, la lumière, le blanc, etc. C'est un peu ça. Si on prend les termes qui sont employés. Alors c'est vrai que quand je les emploie comme ça et que je vous offre le paquet reconstitué, c'est pas sûr qu'il vous convienne, je l'admets. Mais ça a cette piste. Alors je disais dans un autre lieu, mais vous allez voir qu'il a sa pertinence. Pourquoi c'est moins valorisé ? Vous avez donné la réponse en quelque sorte par les termes négatifs que vous avez inclus. Et il y a quelque chose de propre, ça m'avait beaucoup intéressé. Pourquoi la mécanique des fluides dans le cadre de l'ensemble de la physique a un retard, entre guillemets, comme disent les épistémologues, un retard épistémique sur l'ensemble des autres parties de la physique. Ça, c'était une énigme. Personne n'a jamais compris pourquoi, jusque certains se sont dit, parce que ce sont des fluides. C'est-à-dire une interprétation idéologique du retard. Dès que vous touchez au fluide, vous avez le concept qui s'arrête. Et les hommes vont plutôt faire la physique des matériaux solides. Donc on voit que quand même, derrière ce qui pouvait apparaître, l'aquarelle, féminin, derrière ces termes-là, il y a des enjeux quand même importants par rapport à ce que nous questionnons. Alors c'était difficile parce que c'était presque une intervention à contre-emploi, qui doit tenir à nos... Dans les années 70, vous disiez rien que l'aquarelle, vous aviez les grosses voix qui là se seraient manifestées en disant on va faire un scandale à la galerie, ou on n'y va pas. Vous êtes d'accord? Imaginez les hommes de support surface, qui vont être exposées dans peu de temps au Carré à Nîmes. C'est vous qui m'en avez informé. Le 12, il y aura le vernissage dans ce lieu magnifique de Norman Foster. Eh bien, vous imaginez l'aquarelle. Le terme aurait vu leur virilité exacerbée. En plus, il n'y a pas de femme dans le support surface. Etc. Donc, c'était ce point-là qui me paraissait... Si j'entends bien la petite discussion que vous orchestrez, c'est de faire entendre peut-être cette dimension politique au fond.
Moi, quand j'entends ça, je pense à Marlène Dumas et à Rosemary Troeckel en particulier.
Oui. Mais parce qu'on parle de féminisme, donc effectivement, oui, il y a cette dimension-là. Donc des artistes que, enfin, voilà, que j'aime beaucoup, effectivement, et qui travaillent l'aquarelle ou l'encre. Mais l'aquarelle aussi, dans des très grands formats. Et
le repentir n'est pas possible.
Et le repentir n'est pas possible.
Le concept sans repentir, vous détruisez un homme. Vous mettez un homme. Sans repentir, il s'effondre. Les hystériques adorent ça, faire ça avec les garçons, plutôt du côté obsessionnel. Elles les font grimper et ensuite démontrent. Tu n'as pas la possibilité du repentir. Et vous voyez les hommes s'écrouler, les grands gaillards. Enfin, ça, c'est un autre lieu, évidemment.
Non, mais en même temps, cette histoire qu'il n'y a pas de repentir, c'est en aquarelle, c'est faux, ça ment.
C'est faux, en fait.
C'est pas vrai. C'est vrai que c'est toujours présenté comme ça. Moi, j'ai regardé beaucoup de manuels amateurs, justement, avant de venir. Et comment c'est présenté, comment vous allez apprendre l'aquarelle en 15 leçons, etc. Et les gens sont dématés d'entrée, on leur dit c'est super dur, quand t'as posé une couleur c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, il y a plein de techniques qui permettent d'effacer, de revenir.
Le savoir-faire vient annuler la radicalité qu'essayait de faire surgir.
Tout à fait, tout à fait. Moi je voulais, il y a un petit terme qui m'a fait penser à une expérience que j'ai eue cet été quand j'étais en Corse. C'est l'histoire, c'est Barbara qui disait que l'aquarelle, ça servait à faire des planches. Et moi, ça m'a ramené directement à un moment où j'étais au bord de la mer, et donc je nageais là. Et puis justement, je voulais faire la planche. Et je me suis retrouvé allongé dans la flotte, ce qui me terrorise absolument, en pensant ce qu'il y a en dessous, que je ne vais peut-être pas m'en sortir, que les vagues vont me recouvrir, etc. Donc j'ai fait un gros effort comme ça pour faire la planche, pour me laisser aller. Parce que, bon, voilà. Et je me suis retrouvé dans une situation qui était vraiment une situation de peintre tout d'un coup. Je flottais, dessous moi il n'y avait que du liquide. Et au-dessus de moi, il y avait un ciel bleu et une grande lumière. Voilà. Et ça, c'était une expérience que j'ai ramenée directement à la peinture.
Donc, vous êtes devenu une tâche aquarellisée dans le monde.
Exactement, c'est comme ça.
Où le danger vous a fait flotter à la surface.
Donc, la peinture, ça aide aussi à nager. Hein.
Alors je veux dire, c'est pas tous les jours que quelqu'un, un homme, vous dit qu'il s'est identifié à une tâche d'aquarelle. Vous avez fait l'aquarelle. Donc maintenant, on pourrait dire ça. Ça pourrait passer dans notre vocabulaire. Et si tu faisais un peu l'aquarelle?